Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 202 du podcast Dunk Hebdo. Petit message de circonstance pour débuter, l'équipe espère que tout va bien pour vous et vos proches dans ce contexte actuel. Tenez bien pour m'accompagner cette semaine. Allez, on va la faire à l'ancienne, la réunion des anciens. On commence par le coach aujourd'hui, Pierre. Ça va Pierre ?
Salut Ben, salut tout le monde, ça va.
Prêt à assumer ta mission de coaching pour de vrai ?
Enfin,
pour
oui, j'ai hâte.
Vous allez comprendre ces présentations un peu spéciales. Mon président des opérations basket, a.k.a. Brutus, Tom, ça va Tom ?
Très bien. J'ai préparé la feuille de calcul, là, on va s'acharner sur le CBA, sur les options de contrat et le salary cap.
On vient de perdre la moitié de notre Audimat. Et enfin, pour finir, Alan, mon GM, ça va Alan ?
Salut Ben, salut tout le monde, fidèle au poste.
Alan, d'ailleurs, j'ai fini par toi parce que tu as relancé un de nos anciens projets cette semaine, DH20. Est-ce que tu peux en reparler parce qu'on l'a déjà fait à nos auditeurs?
Ouais, exactement. En milieu de semaine, donc, j'ai fait parvenir le petit questionnaire facilement pour en fait classer les joueurs de 1 à 20, les 20 meilleurs joueurs de la ligue. Comme ça, tout le monde peut participer. Comme tu l'avais dit, quand on l'avait lancé il y a plus d'un an, il n'y a pas vraiment de consensus entre tous les sites différents des 20 meilleurs joueurs de NBA. Là, malheureusement, il n'y a plus de match, donc il y a peut-être un peu plus de temps pour faire ça. On a déjà une cinquantaine de réponses à l'heure où on enregistre. Donc voilà, j'invite les gens. Je pense qu'on mettra un petit message avec le lien sur Twitter. Et puis après, on débriefera de ça dans un podcast prochainement, je pense.
Tout à fait. Donc, on vous invite à remplir le DH20. Vous trouverez ça sur nos réseaux sociaux. Et surtout, très important, placez très haut Russell Westbrook. Merci beaucoup. On ne veut pas être le service après-vente de Russell Westbrook. Merci beaucoup. Donc, vous faites votre job et vous me le placez très, très haut. Merci beaucoup. Au programme, cette semaine, un nouvel épisode reconstruction. Nouvel épisode. Alors, pour les fidèles de longue date du podcast, vous connaissez ce format. Pour les nouveaux, explication. Donc, le format reconstruction, on l'a déjà fait pour quelques équipes NBA. C'est un peu une quasi-fiction où, après la pause, on va prendre le rôle de membre d'un front office, différents rôles, pour vraiment essayer de vous plonger, même si on n'y a jamais été, dans la réalité d'un front office NBA, d'une équipe de dirigeants, avec parfois des agendas contraires. C'est pour ça que j'ai présenté tout le monde assis. Tom est président des opérations basket, c'est donc la personne la plus haut placée dans l'organisation en dehors de moi, parce que je suis le propriétaire, donc je ne suis pas seulement un chéquier sur pattes, je vais le préciser après. Alan est general manager, d'où son surnom qui a plus de 2 ans, voire 3 ans maintenant, de GM d'Alan le GM, et de Pierre forcément. C'est la nouveauté pour ce nouvel épisode. Reconstruction sera notre coach. Yes. Rien à rajouter, je pense. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'une fois que la petite pause passe, on n'est plus Tom, Alan, Pierre et Ben, mais on est vraiment les propriétaires, le proprio, le président des opérations basket, le coach et le GM des Minnesota Timberwolves, parce que oui, c'est l'équipe qu'on a décidé de reconstruire, ou même si on va voir que parler de reconstruction, c'est peut-être pas le mot le plus idéal. Donc, est-ce que vous êtes tous prêts, les gars, à vous chamailler dans quelques minutes sur des noms de joueurs sur lesquels je vais pas vouloir payer
Ouais.
Eh ben allez, on se retrouve dans quelques secondes pour reconstruire les Minnesota Timberwolves. Bonjour messieurs, j'espère que vous m'entendez. Merci d'avoir répondu à mon appel en ces temps difficiles. J'espère que tout va bien de votre côté. Coach Pierre, est-ce que ça va ?
Ça va très bien, je vous remercie de m'accueillir dans cette réunion.
JM, Alan, est-ce que ça va ?
Oui, ça va. Beaucoup de travail. Et le processus est un petit peu plus compliqué avec les circonstances, mais on fait avec.
On en parlera. Et président des opérations basket, Tom, est-ce que tout va bien ?
Très bien, les comptes sont à jour.
Alors, vous savez, j'ai acquis cette franchise des mains de Glenn Taylor après avoir fait fortune dans le commerce international. Première chose, même si on a déjà eu l'occasion de se parler entre nous, vu que je vous ai tous engagé pour remplir une mission, et je vous en remercie d'avoir accepté cette offre au sein de l'organisation. Première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est que plus qu'un propriétaire, je suis avant tout un fan de basket. Si j'ai décidé d'acheter cette équipe, qui n'est pas forcément la plus glamour NBA, hein, j'avais possibilité d'acheter d'autres franchises, c'est avant tout parce que je suis un fan d'NBA de la première heure. Donc, sans vouloir vous court-circuiter, parce que je sais que les propriétaires qui s'investissent trop, c'est parfois le point commun entre toutes les mauvaises équipes, je vais quand même essayer et donner mon avis sur l'aspect basket, parce que je me considère comme un fan, même si c'est pas mon rôle et que je ne suis pas un professionnel comme vous. Voyez-moi un petit peu comme un Jerry Jones sans, pour ceux qui connaissent, sans parfois les excès. Pour ce qui est de la deuxième chose, les objectifs, alors je vais vous le dire, je veux déjà être une franchise respectable. On a joué les playoffs deux fois en 15 ans presque. Clairement, c'est pas la franchise la première à laquelle on pense quand il s'agit de NBA. Je pense qu'on peut changer tout ça. J'ai confiance dans les personnes que j'ai engagées. Donc, mon objectif premier est très clair, faire les playoffs deux fois au cours des quatre prochaines années. Au vu de l'effectif, j'ai conscience que ça sera difficile. Donc, pour remplir cet objectif, je vous permets, sans bien sûr rentrer dans des folies type Cavaliers de l'époque LeBron James récemment, je suis prêt à payer à la luxury tax. Mais à la fin de ces 4 ans, de ce bail de 4 ans, une réévaluation du front office sera faite. Et si les objectifs ne sont pas rencontrés, clairement, un changement au sein de l'équipe dirigeante sera fait. Pour savoir d'où on part, je vais me tourner vers vous, coach Pierre. J'aimerais un peu que vous nous présentiez l'effectif rapidement. Qu'est-ce que c'est actuellement l'effectif des Timberwolves ?
Pour commencer, je vais déjà faire un petit retour sur l'année dernière, donc qui a été assez écourtée, qui a été une année très spéciale pour nous. On avait des objectifs au début de saison qui étaient de faire quand même évoluer le jeu de l'équipe qui ces dernières années était rassemblé autour d'un jeu très intérieur, sans rythme, qui s'adaptait pas forcément à la NBA moderne. On a mis en place avec mon staff un jeu qui s'est accéléré, on est une des premières équipes à la pace maintenant sur la dernière saison, beaucoup plus de tirs à 3 points tentés, ça a nécessité quelques adaptations de certains joueurs, on l'a eu au début de saison avec Andrew Wiggins par exemple, mais on va dans la voie qu'on voulait, c'est-à-dire une adaptation à un jeu beaucoup plus moderne. Ce qui nous a aussi permis de faire ça, c'est qu'on a gagné beaucoup plus de ballons défensivement, on est une des meilleures équipes en interception, on a limité les line-up avec des grands joueurs, les line-up autour de Towns et par exemple de Taj Gibson, où on se rassemblait très à l'intérieur, on a essayé d'enlever ça pour jouer presque en stretch 5 parfois, donc plus de spacing. Le plus gros défaut de ça, ça a été notre défense cette saison qui a été catastrophique, il y a beaucoup de choses à travailler, nos joueurs se sont moins concernés par cet aspect-là par ce côté-là du terrain, et on le verra par la suite, il y a peut-être une problématique à ce niveau-là pour la suite de la franchise. Une chose à discuter maintenant, c'est la trade deadline qui a été très active, on a été très actifs à ce moment-là. Cette saison, l'effectif a quasiment totalement changé. On le sait, on a fait venir D'Angelo Russell pour accompagner Karl-Anthony Towns, son grand ami. Ça l'a probablement un petit peu rassuré sur le futur de la franchise, mais ça a amené aussi beaucoup de changements, et au final, les deux joueurs n'ont pas pu jouer ensemble en fait cette saison, j'ai pas pu les étudier ensemble. Par rapport à ces deux-là, je pense qu'il est facile de dire que c'est normalement notre duo du futur, des All-Stars, des joueurs qui s'entendent bien, qui fitent plutôt bien, ça nous garantit une production offensive normalement qui est presque automatique chaque match, on peut imaginer déjà les faire jouer en pick and roll, en pick and pop. Je suis vraiment très intéressé par les faire collaborer ensemble, mais ce duo-là soulève une vraie problématique défensive, puisque Towns peut être un défenseur honnête, mais il n'en a pas l'investissement, il n'est pas entouré pour, et Russell n'a pas montré là sur les derniers matchs de la saison qu'il pouvait l'être. Donc on va peut-être devoir tabler sur ça et travailler sur ça par la suite.
Juste une petite question, coach Pierre. Clairement, puisque je l'ai dit, l'objectif c'est de commencer à regagner les playoffs. À l'heure actuelle, avec l'effectif là, on se situe où à l'ouest? Si on doit faire par groupe, par grappe à l'ouest, on est quoi? On est entre 10 et 12, quelque ouais. chose comme ça?
Ouais, je nous situerais dans ce groupe-là. Il y a clairement des équipes qui sont au-dessus de nous, des contenders. On peut parler de deux équipes de Los Angeles, peut-être Houston s'ils n'exposent pas tout. Il y a les Warriors qui vont revenir très fort l'année prochaine. Mais je pense qu'on peut essayer de rivaliser avec des équipes comme Sacramento, peut-être Portland si ça explose encore un petit peu, les Spurs. Voilà, on est plutôt dans ce groupe-là et je pense que les playoffs seront difficiles à obtenir, mais on peut peut-être se placer à la course. Sachant que la saison dernière a été plutôt décevante à ce niveau-là, puisqu'on est une des pires équipes NBA actuellement avec un des pires bilans. Donc on en a un haut choix de draft, mais on pouvait espérer faire mieux.
Et dernière petite question, en quelques mots, Karl-Anthony Towns, si j'ai donné cet objectif de 4 ans, c'est pas un hasard, c'est que c'est la fin, coïncide avec la fin du contrat de Karl-Anthony Towns. Est-ce qu'on peut espérer le garder sur toute la période ou on peut déjà voir des petits ruissellements sur un possible départ ou une envie d'ailleurs? Je sais que vous avez parlé du fait que son ami, son grand ami D'Angelo Russell a été acquis ces dernières semaines.
Ben, il y a eu quelques rumeurs ou quelques petites confrontations avec lui au niveau de son investissement, de ce qu'il voulait rester, de par rapport à son contrat, il y avait pas mal de choses. Je pense que le fait de faire venir D'Angelo va vraiment l'aider à se sentir mieux dans notre effectif. Il y a eu aussi l'histoire avec Butler qui ne l'avait pas aidé à ce moment-là. Là, il sait qu'on a parié sur lui complètement, on est capable de faire venir des joueurs qui l'apprécient et qui peuvent l'aider. Et je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant et je pense que ça l'a rassuré pour l'instant. Maintenant, il va falloir, et ça, ça correspond aussi à vos objectifs à vous, il va falloir avoir des résultats dans les prochaines années pour ne pas gâcher son prime ou qu'il veuille le passer dans une autre franchise.
D'accord. Et ben, si j'ai bien compris, je pense qu'on est tous d'accord. Si on veut raccrocher ses objectifs, il va falloir du renfort. Exactement. Des renforts même, on va mettre ça au pluriel. Tom, opération, notre président des opérations basket, on se situe où niveau masse salariale et tout ce qui est contrat?
Alors aujourd'hui, si la saison s'arrête aujourd'hui, donc on paie la luxury tax puisqu'on est au-dessus de la luxury tax d'un million après tous les mouvements qu'on a fait à la trade deadline, mais c'est pas rédhibitoire. Là où on a un autre problème, c'est que en fait on se retrouve dans une situation où on a aujourd'hui 8 joueurs sous contrat. Donc Culver, Evans, Jim Johnson qui va certainement activer son option à 16 millions, les Man Towns, D'Angelo Russell, Josh Okogie, Omari Spellman, on a la dead money du coup de Cole Aldry puisqu'on l'a stretché il y a quelques années. On a ensuite 3 contrats non garantis, donc c'est des contrats qu'on a signés cette saison, en début de saison, avec Jalen Noel, Jared Vanderbilt qu'on a récupéré dans un trade, et Naz Reid qui a joué pas mal de minutes en l'absence de Karl Anthony Towns. Et ensuite, on a deux joueurs qui sont agents libres restreints, en la personne de Juancho Hernan Gomez et Malik Beasley. Malik Beasley Coach Pierre en parlera certainement après, qui a fait pas mal de choses. Autre chose à rajouter à notre situation salariale, c'est le fait qu'on ait 2 choix de draft, donc un choix de draft plutôt haut placé. Donc les choses restaient comme telles quelles, on aurait le 3e choix de draft qui aurait un contrat de 7 millions 9 à peu près. Donc c'est un contrat qui est garanti à rajouter, plus le 16e pick de draft qu'on a récupéré, qui est celui de Brooklyn, et qui est à hauteur de 3 millions. Donc en gros, on ne peut pas opérer en dessous du cap, on doit opérer comme une équipe au-dessus du cap, ce qui nous laisse uniquement la mid-level exception à utiliser.
D'accord, donc si j'ai bien compris, situation qui va s'éclaircir au niveau salarial que dans un an, 2021-2022.
C'est ça, si... ce sera un peu plus clair si on pète pas un câble et on donne pas des contrats trop gros sur de trop longues années.
D'accord, ben on va commencer ce moment, celui des choix. JM Alan Guillou, je vais me tourner vers vous. Monsieur Tom, président des opérations basket, a parlé d'un choix 13, un choix 16. Je sais qu'avec vos équipes de scouts, vous êtes très actifs sur ce qui est la
le droite. Le choix 3 et le choix 16, attention.
Le choix 3 et le choix 16. Est-ce que on peut espérer répondre à nos besoins? Enfin, Coach Pierre les a un petit peu en filigrane, les a sous-entendus, c'est-à-dire de la défense et des postes à l'aile. Est-ce qu'on peut répondre à ça avec la draft ou est-ce qu'il va falloir peut-être être un peu plus patient?
Ça va dépendre de la politique et des choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va cibler des profils ou est-ce qu'on va choisir le joueur le plus talentueux? Je parle là pour le premier pic, c'est-à-dire le pic qui, avec la réforme de la loterie, ça peut descendre, mais on serait pour l'instant assuré d'un pic haut.
Top 6. Donc,
c'est ça. Quel choix on fera? Faut qu'on en discute ensemble. Soit le meilleur joueur disponible, donc le talent, et quitte à prendre un joueur qui potentiellement est un guard mais qui pourrait aider dans les premières années en sortie de banc parce qu'on a quand même cette base d'Angelo Russell, de Karl Anthony Towns, ce qui fait que pour introduire un joueur qui a besoin du ballon c'est plus compliqué, mais on pourrait avec ce choix là renforcer notre banc dans le début du processus. Ou alors est-ce que il faut choisir un joueur qui directement peut accompagner ces joueurs là? Moi, je suis plus philosophiquement dans la théorie du meilleur joueur disponible, mais je pense qu'il faut qu'on en discute. C'est pas la draft où on va pouvoir cibler potentiellement un poste 3 ou un poste 4 trop haut et qui aura tout de suite un niveau pour, je pense, être un compagnon de nos deux meilleurs joueurs. Ça va dépendre de la politique qu'on va adopter.
Coach Pierre, du coup, si on écarte ce besoin à l'aile et un peu défenseur, quel est selon vous le deuxième besoin le plus pressant?
C'est assez compliqué. Je pense que vu notre effectif actuel, on n'est pas à un joueur près, mais presque à n'importe quel poste, d'être un candidat au titre. Donc on a besoin de talent. Selon ce qu'on fait avec Malik Beasley cet été, l'ajout d'un guard ça pourrait être viable. Je pense qu'en plus, selon les premiers choix, selon les mocks qui ont été réalisés, je pense que nos choix et le talent est plutôt dans ces postes-là. Donc pourquoi pas miser sur un de ces guards. Après moi j'ai un joueur moi qui m'a particulièrement tapé dans l'œil et qui du coup est un poste 3-4, c'est Isaac Okoro, et j'avais peut-être une stratégie à mettre en place vis-à-vis de ça. Donc ça serait drafté par le talent, donc selon notre choix top 6, donc drafter le meilleur joueur à la position puisqu'on a besoin de ce talent-là. Mais Okoro est plutôt lui dans la fin du top 10, donc on n'a pas ce choix-là, et même ça serait trop de le prendre dans le top 6, mais on a le choix 16 et un autre choix en tout début de second tour. Et en fait, on l'a dit déjà, c'est une draft où pas mal d'équipes vont vouloir trade back, vont vouloir descendre dans la draft. Et du coup, il sera beaucoup plus facile de monter dans cette draft-là puisque beaucoup d'équipes veulent descendre. Et je pense qu'on peut réussir à monter notre choix 16, peut-être avec notre autre choix, jusqu'à un choix de top 10, sachant que les équipes veulent descendre, pour drafter Okoro, lui qui fitera complètement à ce qu'on veut mettre en place, qui fitera complètement à côté de Russell, Towns, peut-être Beasley, et qui sera parfaitement dans notre environnement, qui pourra être une vraie angle défensive. Donc la stratégie, c'était peut-être de faire un package avec nos deux autres choix pour essayer de monter, avoir deux choix dans le top 10, ce qui permettrait d'avoir en même temps un joueur qui est capable d'apporter dès maintenant, mais avec un bon potentiel, et une potentielle peut-être All-Star ou Superstar avec notre choix top 6.
Bah en fait, moi, j'ai un peu de mal avec ça, puisque je pense pas qu'on va réussir à monter dans le top 10 simplement avec notre choix top 16 et aussi notre choix du deuxième tour. Je pense qu'il va falloir plus que ça pour monter, donc on peut quand même négocier et voir. On peut quand même négocier et voir avec les autres équipes, mais il y a aucune chance qu'il passe le top 10 ce joueur, Okoro.
C'est les boards de mes confrères sont tous un peu différents cette année, on sait pas trop. C'est un joueur qui n'a pas le potentiel superstar, c'est un joueur qui a potentiel de vrai role player plus, il pourrait un petit peu descendre. Je pense que il peut autant partir 5-6 que être disponible en 13-14. Ça va vraiment dépendre si un de nos confrères se jette dessus parce que il veut vraiment le mettre tout de suite dans son équipe.
Ok, parce que en fait, pour ce choix-là, il faut vraiment pas se tromper, puisque nous, comme vous le savez, on a envoyé notre choix aux Warriors, du coup, de l'an prochain, et on est dans l'incapacité de transférer un autre pick avant 2023, puisqu'on a la Stepien Rule qui nous empêche de pouvoir faire ça. Donc, si jamais une équipe veut des assets supplémentaires, de qui vous êtes prêt à vous séparer, et qui est-ce que vous êtes prêt à mettre pour qu'on puisse peut-être essayer de monter, si vous voulez vraiment ce joueur-là?
Si on parle crûment, on a que seulement deux joueurs dans un contrat rookie qui peuvent intéresser des équipes. C'est Josh Okogie et Jared Culver. Mmh. Vous me dites si je me trompe, monsieur le président des opérations basket, mais je pense que c'est les deux seuls qui intéressent.
Qui peuvent avoir de l'attrait. Vous, si vous devez en garder un, ce serait plus Josh Okogie ou plus Culver. Puisque moi, j'imagine que la valeur de Culver doit être un petit peu plus haute, puisqu'il y a toujours l'incertitude, même s'il est plus âgé, je pense. Mais vu que c'est un choix plus récent, peut-être qu'il a plus de valeur, non?
Ça dépend aussi de qui on souhaite drafter, bah du coup avec notre top choix. Si on draft un guard, je pense que Culver, il aura beaucoup de mal à s'exprimer. Cette année, ça a été très compliqué pour lui, notamment offensivement. Il a pas eu l'impact qu'on espérait. Il a eu du mal à créer alors qu'on lui demandait ça, notamment en l'absence de certains joueurs. Il a peut-être un profil défensif, mais il doit encore fortement s'étoffer. Je pense que c'est trop tôt pour tirer une conclusion sur lui, mais il y a des doutes quant à... Sur le potentiel là, mais il y a des doutes quand jusqu'où il va aller et dans combien de temps. Et par rapport à Okogie, alors il commence de polir son jeu, ça, il travaille dur, il amène une vraie culture défensive, une vraie énergie dans l'équipe. C'est clairement lui le meilleur défenseur de l'effectif, notamment sur les extérieurs, et ça on en a besoin, comme j'ai pu le dire. Mais lui n'a pas le potentiel peut-être d'un Culvert, et on peut avoir des doutes jusqu'où il peut aller, si ça sera pas uniquement un joueur défensif qui apporte de l'énergie et un peu de rebond. Voilà. Après, il est comme vous l'avez dit, monsieur le président, il a été drafté un peu avant, même il y a peut-être moins d'espoir autour de lui, et on va devoir le re-signer aussi beaucoup plus rapidement que Culvert. Donc le débat est là, quel profil on considère.
Puis pour l'avoir vu jouer, moi c'est un joueur c'est un joueur qui joue globalement un petit peu plus haut que sa taille, quoi. C'est un joueur qui joue plus grand qu'il n'est vraiment. Donc je pense que le côté puissance, impact physique, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Malik Beasley et d'Angelo Russell qui pourraient être notre backcourt et notre duo d'arrière du futur, ben ces deux joueurs-là sont quand même assez petits et n'ont pas de force. Et peut-être que Okogie, c'est peut-être un profil qui nous ferait du bien du coup à garder. Donc plutôt Culver du coup.
Ouais,
moi de mon
complètement.
Côté.
Je suis d'accord avec vous sur
un transfert, c'est plutôt Culver.
Ouais, je suis d'accord avec vous sur Okogie, et c'est pour ça aussi que j'ai flashé sur le profil d'Okoro qui lui a cette force, et peut-être pas aussi grand mais très costaud, et pour avoir un vrai profil de stopper entre guillemets.
Bon, on va essayer de faire ça. Par contre, je peux rien vous garantir puisque Jared Culver, c'est limite un asset négatif aujourd'hui puisqu'il a un contrat de près de 6 millions.
Complètement. En parlant contrat, messieurs, j'ai bien compris, si je suis votre raisonnement, que vis-à-vis de la draft, on va partir sur du meilleur joueur disponible. Ce qui fait que partir sur des prédictions peut s'avérer un peu hasardeux. On a parlé beaucoup de ce joueur, Malik Beasley. Je vous l'ai dit, en plus d'être un propriétaire extrêmement riche, je suis fan de basket. Et c'est un joueur, j'aimerais bien avoir l'avis du coach sur Malik Beasley, puisque comme l'a pu le dire Tom, notre président des opérations basket, c'est un joueur qui est free agent cet été. Est-ce que clairement, et on va pas tourner autour du pot, est-ce que c'est un joueur que l'année prochaine on souhaite garder dans notre effectif?
Pour ma part, complètement. Il fait une fin de saison dans notre effectif plutôt exceptionnelle. Il était plus caché, on va dire, à Denver. Il avait pas le temps de jeu et les responsabilités qui lui étaient adaptées. Je pense qu'il est arrivé sur les 15 derniers matchs, en gros, avec une mission, prouver qu'il était capable. Et il a été très bon. Il était capable de créer offensivement. Il a été efficace sur le tir de loin. Son backcourt, notamment offensivement avec Russell, puisque défensivement, là, ça va être très compliqué. Mais offensivement, ça promet vraiment quelque chose d'intéressant. Il est quand même assez athlétique, même s'il n'est pas très grand, mais il a un tir cohérent, et je pense que Russell et lui peuvent être un peu interchangeables en tant que premier ball handler, et peuvent très bien s'accorder avec Karl Anthony Towns. Pour moi, il a prouvé qu'il pouvait clairement fitter avec Towns et Russell, et qu'il doit être dans le futur de notre franchise. Après, s'il demande un salaire, bien sûr, beaucoup trop élevé, ce que je pense pas qu'il sera le cas, on doit pas le signer, mais on doit lui proposer quand même une somme correcte, et je pense que ça peut être notre troisième joueur dans le futur, sachant qu'il a à peu près le même âge aussi que Towns et Russell, et que leur prime arrivera en même temps.
Malik Beasley a chauffé au bon moment, j'ai envie de dire, et c'est-à-dire qu'il a réussi, on le récupère dans ce deal avec Denver, on savait qu'il avait du talent, qu'il était peut-être un petit peu brimé, et chez nous, sans trop de pression, il a fait beaucoup de belles choses offensivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrive à un moment où, en termes contractuels, où il va falloir commencer à parler, parce qu'il pourrait prendre plus d'argent ailleurs. Je ne sais pas si le président des opérations basket a des vents sur des prédictions, mais c'est ce qu'on peut lire.
Alors Malik Beasley, il a la partie, je pense qu'il a été transféré du coup pour être titulaire chez nous et pour pouvoir exploser. Donc c'est quelqu'un qui a refusé une prolongation cet été de 30 millions sur 3 ans avec Denver. Alors je pense qu'il voulait vraiment de l'exposition, c'est peut-être pas forcément une question d'argent. Il s'est montré à son avantage, mais il y a le côté court sample entre guillemets, enfin on a vraiment une période courte,
petit échantillon
pour pouvoir l'évaluer correctement. Donc moi je pense qu'on peut le garder vu qu'il est agent libre restreint. Ce qui va plus nous faire peur, c'est la concurrence et la menace de son agent Rich Paul si jamais il décide de prendre la qualifying offer. Donc c'est un joueur qui a une qualifying offer à 3,8 millions et qui après, s'il prend sa qualifying offer, peut être agent libre non restreint en 2021, là où il y aura normalement énormément de cap space pour les équipes de tout type. Donc moi je pense qu'on peut essayer de lui proposer de l'argent déjà, et de voir après au niveau des années jusqu'où on est prêt à aller. Je pense que 4 ans, 12 millions, c'est un bon départ pour lui, et on peut lui rajouter des incentives pour s'il atteint des choses comme 40% à 3 points, des choses comme ça. Je pense que c'est un contrat où il garantit de l'argent et il se retrouve pas dans une situation à la Nerlens Noel.
Est-ce qu'il va pas être aussi lui plutôt, il va pas attendre des offres des autres équipes et on va être dans l'obligation de matcher? Vous préférez anticiper du coup et proposer lui directement quelque
chose?
C'est
ça. Alors moi je pense que c'est mieux de lui proposer quelque chose comme ça. S'il va sur le marché ensuite et on lui ramène plus, on a le temps de s'ajuster pour choisir. Ce qui est intéressant avec son statut de free agent restreint et ce qui est intéressant pour nous, c'est que les équipes doivent attendre la fin de la période moratoire pour pouvoir lui proposer quelque chose. Parce que si elles lui proposent quelque chose le premier jour de la free agency, elles bloquent leur cap pendant 8 jours, en gros. C'est-à-dire les 7 jours de la présente du moratoire, les 6 jours du moratoire, plus les 2 jours pour lesquels on doit matcher. Donc personne ne fera ça. Donc les équipes qui peuvent nous menacer, clairement, sont Détroit. Mais je pense qu'ils sont dans un autre niveau, les Hawks, même si je pense qu'ils ont quand même un meneur et peut-être ils ont déjà un joueur titulaire, et peut-être les Knicks, par rapport à l'exposition et le fait qu'ils aient de l'espace sous le cap. Mais je pense que Beasley, il a D'Angelo Russell, il a un shooting wing à côté de lui, donc il a des joueurs qui vont permettre de le mettre en valeur. Donc je pense que c'est tout à son intérêt de rester chez nous et de pas encore déménager sa famille et de rester chez nous quoi, et d'encaisser son argent.
Messieurs, je vais vous laisser discuter après sur la suite, sur les autres free agents. Je pense au cas de Juancho Hernán Gómez. Je tiens juste à vous dire que je vous entends parler depuis le début. J'entends parler de Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, qui sont des joueurs que je respecte. Hein. Malik Beasley, de potentiel choix de draft. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop pris en compte qu'on doit jouer les playoffs dans 2 ans. Je veux jouer les playoffs dans 2 ans. C'est-à-dire que j'entends, je comprends que Minnesota, on peut pas attirer. Je ne vous demande pas d'attirer Paul George en 2021. C'est que j'ai l'impression que ce bond qu'on doit faire et qui a été très justement expliqué par monsieur coach Pierre, je ne le vois pas être pris l'année prochaine et je peux le comprendre. Peut-être que plus tard dans le raisonnement, j'arriverai à comprendre et voir clair dans votre jeu. Je me demande juste quand est-ce que cette équipe pour laquelle j'ai investi va devenir candidate au play-off.
Écoutez, monsieur le propriétaire, on a besoin d'un peu de stabilité. Aujourd'hui, le deuxième joueur qui a joué le plus de matchs sur le maillot de l'équipe est un sophomore et c'est Josh Okogie. On a besoin de temps, on a besoin de stabilité avant tout. Je pense que les joueurs qu'on a réussi à assembler aujourd'hui, ils vont permettre à l'équipe d'être excitante dans un premier cas. Puisqu'on va jouer l'attaque, certainement, puisqu'on a des joueurs pour le faire et ça sert à rien d'essayer de jouer la défense quand on a Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell en meneur titulaire et en pivot titulaire. Donc, il faut nous laisser le temps de trouver des profils qui fitent et une fois qu'on aura cet échantillon-là, on pourra prendre des risques, non seulement en 2021, notamment sur des trades, puisqu'on aura quand même un peu de flexibilité, et ensuite en 2022. L'idée, c'est de jouer 2 fois le titre sur les 4 prochaines années. Si on les joue 2 fois de suite sur les 2 dernières années, ça passe.
Et sachant, monsieur le propriétaire, pour vous rassurer, l'un des objectifs de l'année prochaine, vu la construction de notre effectif, ça sera d'être d'une top 5 attaque peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui remplira les salles. C'est quelque chose qui proposera au moins un spectacle qui sera très intéressant et qui permettra d'avoir une vraie base de travail auquel ensuite on pourra ajouter des joueurs de complément. Mais on aura un plafond offensif qui sera très élevé.
D'accord, cet argument-là me rassure plus que le ton un peu impertinent de notre président des opérations basket. JM Alan, monsieur Alan Guillou, j'en ai parlé un petit peu, je vais vous laisser discuter du cas Juancho Hernán Gómez. Je vous l'ai dit, je suis propriétaire, je suis fan de basket avant tout. C'est pas forcément un joueur que j'apprécie en tant que joueur de basket. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois au détour d'un couloir. Est-ce qu'il faut, encore une fois, concrètement, est-ce qu'à l'image d'un Malik Beasley, c'est un joueur qu'il faut conserver dans l'effectif ?
À vrai dire, Juancho Hernán Gómez, c'est un joueur qui me paraît plus théorique pour le moment. On en parle beaucoup comme ce qu'il peut faire. Coach Pierre pourra peut-être en parler. Je pense qu'on parle plus de ce qu'il peut faire plutôt que ce qu'il a fait. C'est un joueur qui a une mononucléose l'an passé, je crois. C'est un joueur qui a eu des problèmes de santé, qui n'a jamais vraiment eu sa chance à Denver, chez nous. Comme l'a dit le président des opérations basket, petit échantillon, donc difficile à évaluer. Ce qui est sûr, c'est que si on garde Juancho Hernán Gómez et qu'on le met poste 4, l'attaque sera encore meilleure, mais la défense sera encore moins bonne.
Moi, ça me paraît, ce profil-là, je pense que si on fait un pari sur lui, on va devoir aligner déjà pas mal d'argent. J'ai l'impression qu'il y a d'autres équipes qui seront intéressées par ce profil-là. Ce profil un petit peu de stretch force, un petit peu le profil idéal qu'on essaye d'imaginer à côté de Karl Anthony Towns. Moi, la problématique que j'ai, c'est qu'auparavant, dans la franchise, on avait Dario Saric et on peut un petit peu rapprocher le profil de ces deux joueurs et ça n'a pas forcément fonctionné à cette époque-là. Et là où je suis d'accord complètement avec monsieur le GM Alan, c'est qu'on imagine beaucoup en théorie ce qu'il peut faire, c'est-à-dire tirer à 3 points, défendre assez bien sur les ailiers, être long, bien écarter le jeu, et il n'a pas complètement réussi ça sur les derniers matchs. Alors certes, l'effectif ne s'y prêtait pas parce qu'il y avait beaucoup de joueurs absents, mais il ne m'a pas complètement convaincu. Je trouve quand même assez intéressant, son profil certes est intéressant pour nous, c'est un profil qui est assez recherché autour de la ligue, mais je ne matcherai pas n'importe quelle offre pour lui. Loin de là, j'investirai pas énormément d'argent sur lui, et à voir quel autre profil on pourrait attirer, peut-être qui serait plus efficace et peut-être moins sur des espoirs.
Alors, première chose, alors lui aussi il est agent libre restreint, mais sa qualifying offer est un petit peu plus haute que celle de Malik Beasley. Il est à 4,5 millions puisqu'il a été drafté un petit peu plus haut. est-ce qu'on lui propose ou est-ce qu'on fait de lui un agent libre non restreint? Vous préférez qu'on garde quand même les droits sur lui et on voit ce qu'il a sur le marché et après on match, ou on lui propose rien du tout et on le laisse partir en tant qu'agent libre restreint, non restreint?
Je pense qu'on peut au moins regarder ce qu'il vaut, et si jamais il a pas de grosses offres, ça sera beaucoup plus facile pour nous de le garder à un salaire moindre du coup.
Très bien, très bien. Ça me va très bien. Sachant que si on doit pas lui proposer, faut pas qu'on lui propose plus de 6 millions, parce que si on a Malik Beasley à 12 millions et lui à 6 millions, on va se retrouver limité dans notre capacité à pouvoir utiliser la mid-level exception sans se faire outcapper. Et pas trop payer la luxury tax, même si j'ai bien entendu que monsieur le propriétaire est assez d'accord pour la payer.
Si je suis votre raisonnement, donc à vous trois messieurs, ce qui fait que l'année prochaine, on partirait sur un effectif avec Malik Beasley, D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, Josh Okogie, Jared Culver,
peut-être
Jim Johnson qui va activer son option, ouais, Jake Lehman qui est encore sous contrat,
et Omari Spellman.
Et Omari Spellman.
Ça nous fait donc 8 joueurs auxquels on peut rajouter 2 potentiels choix de draft.
Et ça.
Et donc
les joueurs non garantis.
Il nous reste donc, et je vais vous laisser en parler, monsieur le président des opérations basket, il nous reste donc les joueurs non garantis. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on... Même si je tiens à dire que je ne veux pas tomber dans la caricature New York Knicks à être un propriétaire qui investit, qui veut tout penser à travers le prisme de la free agency. Mais j'estime que, quand je regarde ce qu'ont pu faire mes collègues champions, j'estime que je pars du principe qu'on ne peut pas construire une équipe uniquement sur la draft. Donc, j'aimerais voir après, par la suite, après cette discussion sur les contrats non garantis, quelles sont les petites touches que sans que ça soit bien sûr délirant, je comprends bien sûr que nous sommes les Timberwolves, quelles sont les petites touches qu'on pourrait ajouter pour rendre cet effectif meilleur à moyen court terme avant peut-être l'explosion.
Alors parmi les contrats, donc on va faire les contrats non garantis et les two-way players ensemble. Donc en gros, on a 3 contrats non garantis. Alors Jalen Noel, Jared Vanderbilt et Naz Reid, qui représente en tout près de 5, un petit peu moins de 4 millions 7 pour les trois. Moi, je sais pas pour vous, mais faudrait déjà les classer en termes d'importance de ceux que vous. Déjà, est-ce que vous voulez en garder parmi dans cette liste?
J'ai particulièrement apprécié Naz Reid sur cette fin de saison et je pense faire de lui le backup de Karl Anthony Towns sur les prochaines années. Il a un profil atypique, il est athlétique, il a des mains, il peut tirer de loin, donc il écarte les défenses, et dans notre optique de jouer presque en stretch 5 tout le temps, il est très intéressant en tant que backup. Et il a montré aussi qu'il avait un bon comportement, qu'il était très investi, et je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut parier sur le long terme et qui est prêt à faire des sacrifices lui aussi, qui ne va pas demander énormément d'argent pour l'instant non plus. Moi je suis vraiment...
Ok, très bien, donc je rajoute en contrat supplémentaire qu'on activerait son option. Ensuite, on a Jared Vanderbilt et Jalen Noel.
C'est des profils compliqués, c'est des jeunes joueurs draftés au second tour, dans 2018 puis en 2019. Jalen Noel, c'est le coach en parlera mieux que moi, c'est un profil de combo, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ça. C'est un joueur qui aime bien scorer, mentalité de score. Et Jared Vanderbilt, c'est un joueur très très atypique. Et si le coach veut faire de Naz Reid son backup 5, il n'a pas sa place. Parce que Jared Vanderbilt est un poste 5 plus petit, beaucoup dans l'énergie, un peu passeur.
Gros rebondeur,
ce qui ne semble pas être le profil recherché par coach Pierre, malheureusement.
Je suis assez d'accord avec ça. Noël n'a pas été particulièrement efficace sur la fin de saison. Il a un profil, peut-être qu'il pourra s'affirmer en NBA par la suite, mais c'est beaucoup trop tôt, je pense, pour lui. Et pour l'instant, il ne l'a pas convaincu. Vanderbilt, c'est plutôt un pari sur le long terme. Et lui, il pourrait être intéressant dans l'optique où Towns jouerait de plus en plus au large. Et il jouerait en fait en poste 4, qui prend la place de Towns dans la raquette. Alors, il y a beaucoup de travail à réaliser avec lui. Mais si on le conserve, ça serait dans cette optique-là que j'essaierais de le faire évoluer. Et donc je préférais quand même ce profil-là au profil de Noël.
Et puis sans vous couper, monsieur le président des opérations basket, on a aussi le choix 32. Si jamais on veut tenter un autre pari sur un combo qui en début de deuxième tour, on peut le tenter ici et donc se séparer de Noël potentiellement.
Ok, d'accord. Donc du coup, si on enlève Noël, ça nous fait en contrat garanti. on passe à peu près à 94 millions de contrats garantis sur 10 joueurs. Mmh. Donc, on verra ensuite ce qui se passe avec Malik Beasley et Juancho Hernán Gómez. Donc, du coup, il nous reste aussi un joueur qui est en two-way contract. Donc, du coup, on n'a pas, il apparaît pas dans la feuille salariale, même si on le paie, mais il est pas dans le salary cap, qui est Jordan McLaughlin, qui a joué énormément de matchs la saison dernière et qui était le meneur de jeu titulaire hein, de cette équipe en l'absence d'Angelo Russell. Que fait-on pour ce joueur? Est-ce qu'on convertit son contrat? Est-ce que vous voulez le garder et qu'on lui propose un contrat sur plusieurs années? Au minimum, un peu un spécial avec une première année garantie et que des team options non garanties sur les années d'après.
Complètement. Il l'a prouvé, lui, sur cette fin de saison, qui nous a permis d'analyser pas mal de joueurs. C'est une vraie bonne surprise. Il a vraiment apporté un petit peu dans ce que faisait Tyus Jones auparavant. Il a été très propre, très combatif malgré son déficit athlétique, j'ai envie de dire. Il a montré qu'il pouvait tenir la main et qu'il pouvait être très intéressant. Et il y a même sur certains passages où j'ai pu l'aligner avec D'Angelo Russell sur un backcourt assez petit, mais ça a été plutôt efficace. Il a dégagé de la responsabilité de D'Angelo sur de la création. Je peux parler notamment du match de Miami où ça a très bien marché, notamment dans le dernier quart-temps. Lui, c'est une vraie bonne surprise et c'est une grosse réussite en termes de two-way. Et je suis complètement d'accord pour lui proposer un contrat sur le long terme. Et pourquoi pas s'assurer, comme vous l'avez dit, avec des team options pour voir comment il évolue. Mais j'ai assez confiance en ce joueur-là sur sa capacité à devenir un backup avéré dans NBA.
Donc du coup, ça, avec tout ça, ça nous laisse uniquement la mid-level exception qu'on peut dépenser. On peut utiliser aussi la biannuelle pour cette saison. Le seul problème, c'est qu'on sera hard-capé à la prone tax, mais je pense pas qu'on aura besoin d'aller à la prone tax cette saison, au moins, en tout cas. Donc très bien, donc à vous de voir quel profil vous intéresse, mais c'est l'enveloppe qu'on a de disponible pour l'instant.
J'ai entendu dans les conversations qui ont précédé cette discussion, et c'est là où je mets ma petite patte basket dans vos discussions, j'ai entendu certains noms traverser, j'ai entendu un nom, celui de Chris Dunn, et loin de moi l'idée, si bien sûr c'est le nom qui a été discuté, loin de moi l'idée de vouloir le remettre en cause, mais je dois vous dire que personnellement, fan de basket que je suis, c'est un joueur que j'aurais extrêmement de mal à payer de mes propres sous. Extrêmement de mal à... Voilà.
Je crois qu'il n'a pas eu aussi une excellente expérience au sein de notre franchise.
Oui, je pense aussi. Et de ce que j'ai eu comme retour d'avant les anciens proprios, les petites histoires en interne, ce n'est pas forcément des choses que je vais amener dans une équipe qui se doit aussi de créer de la qualité en interne. Pas seulement sur le terrain spectaculaire, mais aussi de la qualité en interne.
Selon la rotation qu'on a peut-être imaginée avec l'effectif, Beasley, Russell, McLaughlin et Culvert, plus potentiellement
Okoji
et potentiellement un choix en tant que guard, les postes 1-2 sont archi bouchés et je vois pas ce qu'apporterait Chris Dunn en plus vis-à-vis des joueurs qu'on a déjà.
Bah, moi j'ai une petite liste de joueurs, à vous proposer. Alors,
je vous écoute.
À voir ce que vous en pensez. Alors, enfin, mon premier choix, ce serait Serge Ibaka, par rapport au fait qu'il allie du coup les capacités du jeu du pivot et qui peut faire le pivot rim runner et aussi écarter le terrain pour Karl-Anthony Towns. Donc, la seule problématique, c'est que c'est un joueur qui est cher et qui, je pense, qu'il faudra utiliser l'entièreté de la mid-level exception pour le récupérer. Mais vu que Toronto est dans le derby du cap space pour 2021, si on lui propose un contrat de plusieurs années à hauteur de la mid-level exception, ça peut passer. Toronto, le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont ces bird rights et qu'ils peuvent lui proposer un contrat sur un an beaucoup plus élevé. Par exemple, ils peuvent lui proposer 20 millions sur un an et puis du coup, on le verra pas. D'autres joueurs que je peux proposer, alors Semi Ojeleye, qui est un joueur de Boston. Boston est dans une situation financière assez grave et qui a aussi 3 picks de draft à signer, donc il n'y aura pas assez de place dans le roster pour tout le monde. Donc c'est peut-être un joueur qu'on peut récupérer gratuitement pour, enfin pas gratuitement, mais qu'on peut récupérer pour très peu d'argent. Ensuite, on a Baines, toujours dans l'idée du joueur qui peut jouer aux côtés de Karl-Anthony Towns, qui shoot à 3 points et qui peut aussi jouer dans la raquette. Un profil un petit peu plus atypique avec Harry Giles. Sinon, quelques combos forwards comme Torrey Craig, Jamichael Green, Kenrick Williams et Derrick Jones Jr.
Je rappelle que le président a dit qu'il voulait un petit peu de. Le proprio a dit qu'il voulait quand même jouer les playoffs. Donc,
mais d'où oui, Ibaka en premier choix.
J'avais aussi Ibaka dans ma shortlist, si je peux m'exprimer. J'aime potentiellement l'association. Ibaka, Aaron Baines, c'était un petit peu les joueurs que j'aurais ciblés. Si je voulais construire là-dessus, sachant aussi qu'il faut aussi penser aux joueurs qu'on va drafter, parce que même si ce sont des joueurs qui n'ont pas d'importance tout de suite, c'est un joueur que ce sont des joueurs à qui Coach Pierre donnera du temps de jeu aussi, donc il faut penser à ça. Et sur les postes extérieurs, vu que c'est pas mal bouché, j'avais juste pensé potentiellement à, si jamais on a des incertitudes et qu'on a besoin d'un joueur pour un petit peu de spacing, un Langston Galloway qui je pense peut être intéressant sur des passages. C'est pas exceptionnel, on est dans la saison là, on va drafter des joueurs en loterie, on va évaluer ce qu'on a pour ensuite franchir ce cap dès 2021-2022.
Du coup, si j'ai bien compris, je fan de basket que je suis, j'apprécie le choix de Serge Ibaka. Juste un petit truc qui m'a fait tiquer. Je reviens vers vous, président des opérations basket, Tom. Vous avez parlé de le faire signer peut-être avec une mid-level exception sur plusieurs années. On part sur 2-3 ans, quelque chose comme ça.
Pour moi, on partirait sur 3 ans. Pour moi, on partirait sur 3 ans puisque c'est la seule chose qui peut... Aujourd'hui, on a deux leviers pour les contrats. C'est soit les dollars, soit les années. On ne peut pas fournir les dollars, donc il faut essayer de gagner sur les années. C'est le seul moyen pour faire venir un joueur de ce calibre-là, à ce prix-là, chez nous.
Je pense que pour
moi, c'est ce que je vois.
3 ans, c'est le grand maximum pour un joueur comme Ibaka qui approche de sa fin de carrière, mais qui a eu beaucoup de batailles, qui a eu beaucoup de matchs. Il a fait une très bonne saison l'année dernière et je pense, et je suis d'accord avec vous, que ça peut être une très bonne recrue, et c'est quelqu'un aussi qui amènera expérience, puisqu'actuellement, en vrai vétéran, on a un peu que Johnson qui apporte un peu cette ambiance, et il sait gagner des matchs. Et c'est peut-être
la dureté.
Aussi,
ouais.
La dureté, c'est quelqu'un aussi qui... je pense peut attirer d'autres joueurs aussi de par son expérience dans différentes bonnes équipes, de par les contacts qu'il doit avoir. Après, par rapport aux autres profils, je pense qu'on aura des besoins à l'aile, même avec les drafts et les différents apports. J'aime les profils de Torrey Craig et peut-être aussi de Derrick Jones. Torrey Craig pour son côté défensif, et il n'aura pas besoin du ballon en main. Lui, c'est quelqu'un que je pourrais directement mettre avec les guards qui portent beaucoup la balle, les Towns. Et pour Derrick Jones, ça sera peut-être quelqu'un qu'on pourra développer comme un potentiel shooter un peu plus que Torrey Craig, et qui sera capable d'apporter lui aussi de l'énergie, un petit côté aérien et athlétique aussi qui nous manque sur les lignes arrière.
C'est sûr que si on joue avec... si on est très athlétique et on joue entre guillemets un five out avec et on a juste Derrick Jones Jr. En espèce de marsupilami qui aura plein d'intervalles pour s'exprimer, c'est vrai que ça peut être un cocktail assez assez létal et très très fun pour les fans, et ramener du monde dans la pièce, dans la salle. Ça peut être intéressant.
Sachant que Miami, je suis pas sûr que ça soit leur priorité, Derrick Jones, c'est qu'ils sont plus tournés sur l'année d'après.
C'est ça. Après, l'avantage qu'on a, c'est que lui aussi, il est agent libre non restreint. Donc, du coup, on peut lui proposer un contrat dès le premier jour de la free agency, ce qui n'est pas le cas pour Torrey Craig, malheureusement.
Si j'ai bien compris, voilà, la politique, on est sur des ajouts. Et je comprends, ne me voyez pas comme un propriétaire tyrannique. J'essaie juste, depuis mon poste, vous comprenez, j'ai quand même des ambitions résultats. Et j'ai vu la possibilité de trade, parce que si j'ai bien compris... la fenêtre sur laquelle on part, oui, la draft, oui, les petits apports, mais à un moment, puisque dans mon fort intérieur, j'ai peut-être tort, et peut-être que Coach Pierre peut me contredire là-dessus, dans mon fort intérieur, je me dis quand même que pour s'installer comme une équipe de play-off durable, aux côtés de Towns et Russell, il va falloir du vrai renfort. Du vrai renfort, à moins qu'un des joueurs draftés, je le souhaite, s'affirme comme vraiment un joueur de premier plan. Donc, si ça ne se fait pas à travers la free agency à court terme, peut-être que les trades peuvent être pour nous un moyen d'attirer ce joueur. Justement, Tom, président des opérations basket, j'ai cru entendre que un joueur comme Aaron Gordon était peut-être pour vous un moyen d'y arriver.
Oui, puisque Aaron Gordon, c'est un joueur qui a un peu qui est un peu en théorie un joueur qui a le profil idéal, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de défendre sur les postes 3 physiques qui pilulent en fait dans la conférence Ouest. Donc on aura besoin de ce type de joueur là si on veut essayer d'aller loin en play-off un jour, ou même essayer d'avoir un avantage du terrain. Et c'est un joueur qui peut jouer sur le poste 4, qui a des capacités d'être un peu playmaker sur short roll, et qu'on peut utiliser en pick and roll, qui peut être bon sur les switch, et qui peut être un bon joueur aux côtés de Karl Anthony Towns, puisqu'il a une bonne polyvalence défensive et que c'est plutôt un bon rebondeur. Donc je pense que c'est un joueur qui pourrait aussi être intéressant. Faut voir aussi du côté d'Orlando, puisque Orlando c'est une équipe qui est proche de la luxury tax cette saison, qui est très proche de la luxury tax pour la saison prochaine. Donc du coup on peut peut-être leur proposer de récupérer Gordon, puisque Gordon il a un contrat descendant pour plusieurs années. Si jamais comme ils doivent re-signer certainement Evan Fournier qui fait partie de leur futur, ils pourront pas payer tout le monde puisqu'il y aura aussi le contrat d'Isaac. Donc on peut essayer de récupérer Gordon en leur proposant par exemple Jared Culver je sais pas moi le pick 16, voire même et on couple ça du coup avec Johnson. Comme ce sont des salaires, ils sont équivalents, sauf que comme il est payé sur Johnson est en contrat finissant et Aaron Gordon il reste encore 2 ans, on leur économise des 2 années à ne pas payer. Donc ça peut-être, c'est peut-être quelque chose qui peut faire pencher la balance en notre côté.
C'est notre côté. Pierre sur le terrain, Gordon.
Ça m'intrigue. Je suis clairement intéressé par un potentiel fit. Gordon est lui aussi dans sa 25e année pardon. Donc il est complètement dans l'âge qu'on vise maintenant. Il est poste 4, c'est le profit qui nous manque actuellement, et sachant que Towns lui est capable de jouer au large, on n'a pas forcément besoin d'un énorme shooter, mais quelqu'un qui est capable, comme l'a dit le président, de créer, aussi de scorer pour lui et de défendre surtout sur plusieurs positions. Et lui il est complètement dans cette voie là je pense qu'il a eu une saison décevante l'année dernière à Orlando, ça a été très compliqué pour lui. Je suis pas sûr qu'il rentre dans les plans d'Orlando, donc je pense qu'on peut peut-être mettre quelque chose en place. Et moi c'est un joueur pour lequel je peux encore croire complètement et que j'ai l'ambition de relancer si jamais on l'obtient dans l'effectif, et que je trouve intéressant en tout cas.
Je fais confiance à Coach Pierre pour mieux l'utiliser que comment il a été utilisé du côté de la Floride. J'ai confiance en notre coach.
Lui c'est quelqu'un en poste 4 avec 5 joueurs extérieurs qui sera beaucoup plus efficace que ce qui a pu être proposé à Orlando, je pense.
J'aime Alan Dio, justement 2 questions. D'abord, est-ce que vous avez d'autres joueurs en trade en vue? Et mes amis propriétaires m'ont appris quelque chose vis-à-vis des trades en NBA. C'est qu'il y a une seule règle, c'est qu'il faut placer dans les effectifs, dans tous vos effectifs, des joueurs, on va dire, intradables. Même si, bien sûr, si un jour on arrive avec Luka Doncic, on ne dira pas non. Quoique, qui sont les joueurs? Déjà, bien sûr, la question du trade. Et deuxièmement, est-ce que D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns sont intradables selon vous? Vu qu'on est un peu dans cette question des trades, je veux savoir, est-ce que ces joueurs, c'est une discussion collective pour conclure cette discussion, est-ce que ces deux joueurs sont intradables?
Sur la question des trades, je suis assez heureux de la symbiose qui règne avec le président des opérations basket, parce que j'avais aussi eu potentiellement l'idée d'aller tenter le coup Aaron Gordon. Je voyais pas d'autres... Il y a d'autres types de joueurs qui peuvent, mais c'était vraiment ce joueur-là, cette espèce de profil à mettre à côté de Towns qui m'intriguait vraiment et avec lequel je pensais qu'il y avait un matchage des salaires possible et sans totalement se vider en termes d'assets. Je pense que c'est quelque chose, c'est le joueur, il n'y en a pas 20 000, c'est vraiment le joueur qui pour moi est intéressant sur ce plan-là. Et je dirais que Karl Anthony Towns est intradable, oui. Karl Anthony Towns reste pour moi tradable, je pense que D'Angelo Russell peut être tradable d'ici 2 ans. Je laisse 2 ans à l'association et à Coach Pierre pour mettre en place sur le terrain ce qu'il veut. Et je sais qu'il y a une forte amitié et des forts liens entre les deux joueurs, mais si ça ne marche pas, je pense que Karl Anthony Towns ne nous en voudra potentiellement pas de trader D'Angelo Russell si c'est pour améliorer le futur de l'équipe pour lui, sa dernière année avant qu'il devienne potentiellement agent libre.
Je suis pas sûr qu'il nous en veuille pas, mais je suis assez d'accord avec le GM que Towns est intradable vis-à-vis de tout ce qu'on a parié sur lui, de la vision qu'ont les fans de lui, même autour de la NBA. C'est vraiment censé être le joueur sur qui on se base pour de très longues années. Et Russell, oui, lui est beaucoup plus tradable pour moi. Il a pas encore complètement prouvé. Et j'accepte le défi de, sur deux ans, les faire collaborer plus que bien et montrer qu'on est capable de faire de grandes choses à Minnesota.
D'accord. Dernière question avant de conclure cette petite réunion. Merci pour toutes vos idées qui fleurissent. Dernière question et qui est pour moi est centrale, même si elle est un petit peu fantaisiste. Il y a une free agency. Alors je vous ai dit, je suis pas un propriétaire qui a parié aveuglément sur la free agency, mais je sais qu'il y a des coups qui sont possibles. Free agency 2021, il y a beaucoup de gros noms. On ne sait pas lesquels seront disponibles. Tom, président des opérations basket, est-ce que si on a la possibilité de faire un gros coup sur une free agency, est-ce que c'est un move qui doit être fait par notre organisation? Par gros coup, j'entends un Paul George, quelque chose comme ça. Est-ce que selon vous, dans l'idée, c'est quelque chose qu'on doit faire ou c'est un piège et c'est un faussement attractif?
Pour moi, il faut pas aller sur ce marché-là. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros noms en haut et beaucoup d'argent à distribuer. Une fois que les gros noms seront partis, il y aura toujours de l'argent, mais des noms moins clinquants. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une bataille pour récupérer les noms moins clinquants avec l'argent qui aurait été misé sur les gros noms. Donc ça va créer de l'inflation en fait sur le marché. Et je préfère qu'on soit hors de ce marché-là et qu'on soit plus sur le long terme et qu'on soit plutôt à se positionner pour des échanges pour récupérer des joueurs, puisque là on va vu que c'est une période où qui sera un petit peu moins active du côté de l'acquisition de joueurs, là on va être dans une période où comme il n'y a pas beaucoup d'argent sur le marché et nous on en a un petit peu, on peut créer des contrats qui sont intéressants à échanger pour le futur. Donc je pense que plutôt que d'aller sur le marché de 2021 alors que on connaît rien de notre équipe, alors oui, on peut se garder un petit peu de flexibilité, mais pour moi c'est un piège d'essayer d'aller sur de garder de l'argent de star quoi. Il faudra plutôt aller chercher des role players et des joueurs de complément.
Si je peux juste terminer, je compte sur vraiment coach Pierre pour développer nos choix de draft et potentiellement créer de la valeur à ces joueurs-là. Jared Culver potentiellement, les deux de cette année, potentiellement celui de l'année prochaine, qui eux pourront ici faire valeur de monnaie d'échange si on va aller récupérer un joueur de gros calibre dans une franchise qui cherche à se relancer.
Sachant qu'on a attiré peu, on a attiré peu de free agents, je pense, sur les dernières années, qu'on n'est pas la destination favorite, et que j'ai quand même le sentiment pour les côtoyer, que Towns et D'Angelo ne sont pas vraiment dans un petit peu la clique des grands joueurs actuels qui essaient de se rassembler. Ils sont un petit peu à part, ils sont dans cette nouvelle génération, peut-être avec Devin Booker par exemple, qui est une génération différente et qui n'est pas encore dans cette optique-là de chercher à tout prix de titre, de se mettre en duo. Donc c'est une génération à part et je pense pas qu'on puisse attirer par exemple, comme vous l'avez cité, l'exemple de Paul George, c'est un pari inconcevable, et je rejoins totalement la tactique de notre président qui serait plutôt de parier sur les seconds couteaux, de faire des trades pour avoir des bons joueurs et créer de la valeur. C'est beaucoup plus quelque chose qui, je pense, qui est plausible.
Oui, donc du coup, on est d'accord que, enfin voilà, avec le GM et le coach, que le troisième meilleur joueur, enfin le joueur qu'on va drafter cette année, il doit absolument être dans le top 3 des meilleurs joueurs. Ça ne doit pas être Malik Beasley, notre troisième option si on veut aller en playoff. On est d'accord.
Ça sera pour le moment de progresser, mais ça sera pas pour le titre, ça risque d'être juste, effectivement.
Eh ben merci beaucoup messieurs, je vous quitte et on se revoit très vite si bien sûr tous les résultats et tous les free agents, j'espère, que vous m'avez proposé vont signer chez nous. À très vite.
Bonne journée.
Alors, ce qui est génial avec cet exercice, c'est que t'es proprio et que tu, en fait, c'est si t'es un petit peu sociopathe ou psychopathe comme moi, que tu arrives à avoir différentes personnalités, tu peux te mettre vraiment dans la peau du proprio. Deux choses. Votre plan est génial. Vous l'avez tellement mal vendu. Je vois pas. Tellement mal vendu. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que les auditeurs vont avoir le même sentiment. C'est impossible de faire les playoffs avec ce que vous me dites dans 4 ans. Je conçois que ça soit impossible, mais vous me l'avez tellement mal vendu, les gars. J'y crois pas une seconde que je fais les playoffs dans 3 ans. J'y crois pas une seconde. Je peux pas. Alors que votre plan, il est génial, c'est ce qu'il faut faire. Mais je crois pas une seconde à votre plan aux playoffs dans 3 ans.
En vrai, pour, qu'est-ce qui te fait pas y croire?
Il y a aucun moment où déjà vous parlez ne serait-ce que playoff vraiment. Faut à chaque fois. Et moi, le fait que je vous le rappelle, c'est pas innocent. Hein. C'est juste pour vous dire, les gars, vous devez dire un moment, ça va nous permettre d'aller en playoff. En fait, vous parlez année 1, 2. Et le problème, c'est que année 1, 2, on est mauvais. Il y a aucun moment où vous me dites, ah bah après ça, on pourra espérer aller haut, haut. Il y a aucun moment où vous me l'avez dit.
Je pense que c'est vrai. Oui, mais si on a nos joueurs en bonne santé, on sera meilleur que cette année. On sera à la lutte pour moi. Si en tout fait, le monde est en bonne santé l'année prochaine, on est à la lutte.
En fait, on s'est basé pour faire une bonne base sur les deux premières années et que si tout se passe bien, on sera une franchise qui compte.
C'est ça. Ah, mais ça se comprend. C'est juste. Ça serait bien que les auditeurs nous donnent leur ressenti. Moi, en fait, je me dis, je comprends ce qu'ils veulent me faire. Mettez-moi une carotte à un moment. Dites-moi, si on fait ça, on va en pleurer. Il n'y a pas de carotte. Il y a un moment, je me dis, les gars, faites-moi rêver. Il n'y a pas de carotte. Vous me faites rêver avec Serge Ibaka. Je me suis dit, c'était fini.
On n'a pas sorti les arguments à couleur. C'est vrai.
C'est vrai.
On était trop cartésien.
C'est ça, vous avez été sérieux. Après, il y a un moment, je me suis dit, ah, ils vont me faire rêver. Après, je comprends, il y a des problématiques, le cap et tout, tu peux pas faire autrement. Mais ils m'ont même pas menti, en fait, à un moment. Ils ont été trop honnêtes avec moi.
On veut pas que ça se retourne contre nous dans le futur. Si on...
c'est ça. Ils m'ont même pas. En fait, ils m'ont exposé la situation comme probablement ça va se passer. Le problème, c'est que c'est trop honnête, limite. Voilà. Ce sera la conclusion de ce podcast. Vous êtes trop honnête. Voilà. Ne soyez pas honnête dans la vie si vous voulez un poste dans un front office NBA.
C'est vrai que Tom a pas parlé de payer des joueurs sans le contrat. Un peu de...
voilà. Voilà, dédicace à Victor Oladipo. Oui. En tout cas, on espère que ça vous a plu ce format. N'hésitez pas à nous dire c'est fatigue, hein. C'est trop de milliards, hein, la fatigue. Si ça vous a plu, je sais que la plupart du temps, les membres de l'équipe apprécient plutôt ce format. Et voilà, ça nous permet de prendre un petit peu ce qui est notre rêve, de prendre le costume d'un front office NBA. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur cet exercice. Juste que j'ai l'impression que Pierre, le front office, met énormément d'espoir dans toi. Hein.
Je sais pas pourquoi, mais c'est ma première année, c'est mon premier podcast et j'ai énormément de pression.
Parce qu'en fait, t'es fusible. Je t'explique, ils vont venir dans 2 ans dire non, mais en fait, il est nul. Donc, virez-le.
Oui, si l'association Towns Russell ne marche pas, je pense que je pourrais sauver ma peau en te faisant éjecter, oui.
Ah ouais, c'est ça. moi je pense que c'est surtout par rapport à la philosophie, en fait. On a été, enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a plu dans ce que Pierre a dit, c'est qu'en fait, on est une équipe qui est incapable d'être moyenne défensivement au moins. Donc, du coup, il faut être top 5 en attaque, et il faut qu'on soit aussi fort, il faut qu'on soit tellement plus fort que la moyenne de la ligue en attaque, que le fait qu'on soit mauvais en défense soit passable, en fait.
Ouais, un petit peu masqué, exactement.
Voilà, c'est ça.
Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'on compte.
C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur Pierre, puisque on a récupéré des joueurs qui nous obligent à construire une équipe équilibrée sur un déséquilibre, en fait. C'est pour ça. Et c'est à lui de trouver la bonne balance, quoi.
Donc il continue à te mettre dans la sauce, hein. Je tiens juste à dire. Et donc voilà, bah du coup c'est comme ça qu'on va conclure après ce petit récap. On va conclure cet épisode numéro 202. Merci de nous avoir écoutés. Si les fans des Timberwolves sont plutôt d'accord ou pas d'accord avec cette reconstruction, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez. Restez bien confinés et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Salut. Salut.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.